18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonjour, bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver, vous le savez, nous sommes ensemble, 18h, 19h30, c'est votre émission, votre magazine. Et au sommaire de cette émission, vous le savez, justement, au programme, ce que je vous propose, d'abord, on viendra sur l'interview du jour avec Samira, qui viendra nous parler du Mondial au Qatar et son association. Vous saurez tout dans une poignée de minutes. Ensuite, après, vous savez quoi, on parlera de ce meurtre de Nadia Assad à Nantes. Horrible meurtre, un peu comme Lola. On viendra sur cet événement, je voudrais vous entendre, une femme de 47 ans, tout à l'heure au 01 53 48 3000, parce que c'est une femme visiblement, alors on parle d'un acte raciste, et puis le jeune qui dit il avait un besoin irrépressible de violence. Ah, j'avoue, là il y a quelque chose qui m'échappe. Un besoin de violence. Bon, ça me laisse un peu perplexe. On va en parler tout à l'heure, je vous avoue. Les quatre sujets qui ont retenu notre attention pour les débatteurs influenceurs tout à l'heure, vous savez, eh bien, les voici. Tout simplement, au menu, mort de Lola, le gouvernement qui reconnaît de faire mieux sur les expulsions des immigrés réguliers. Pourquoi ? Parce que notamment, vous savez, les opposants s'y mettent. Meurtre de Nadia Assad avec vous, avec les débatteurs influenceurs. On reviendra sur le 49-3. Y a-t-il un risque ? Et puis les mensonges de Saussure, tout cela on en parle. Et puis enfin, Washington qui se dit prêt maintenant à une invasion chinoise de Taïwan. Alors on parle de la guerre en Ukraine, bientôt on va nous parler de la guerre Chine-Taïwan. Bon, le monde va bien les amis, hein. Le monde va bien. C'est une boutade quand je dis ça. Allez, c'est parti les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant, et vous le savez, en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h, 19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
Et c'est parti pour l'interview du jour.
Les informés. Les informés. L'interview.
Et l'interview, vous savez, c'est avec Samira Djouadi. Elle est la patronne de la Fondation TF1, mais elle représente pas ce soir la Fondation TF1. Elle représente une association, justement, qui œuvre pour le sport, qui œuvre pour la culture, qui œuvre aussi pour les jeunes des quartiers populaires. Bonjour Samira. Ah, Samira est partie. Samira, on a eu un petit souci avec vous, Samira. Aïe, 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 aïe. Bon, oui, on va essayer de la retrouver, Samira, vous inquiétez pas. C'est des choses qui arrivent, hein. Nous sommes en direct et c'est comme ça que ça se passe, tout simplement. Vous pouvez vous apprêter, vous, 01 53 48 3000, pour parler, évidemment, du meurtre de Nadia Assad. On a tous vu, évidemment, circuler sur les réseaux sociaux, notamment des émotions, notamment des élus réagir, notamment aussi, j'ai vu... Pas mal d'élus réagir justement et nous faire part de leur colère et parfois aussi, vous savez quoi, de leur questionnement. Le questionnement à savoir dans quel monde vivons-nous justement. Et franchement, je suis tenté de vous dire que la violence prend de l'ampleur. Elle prend de l'ampleur et c'est ça qui nous inquiète. Ça nous inquiète parce que tout simplement, on a le sentiment que la société, elle est en train de se radicaliser de plus en plus. Que devons-nous faire ? Où est passé le vivre ou le vivre ensemble ou le mieux vivre ensemble ? Enfin, je ne sais même plus quels sont les termes qu'il faut employer. Au standard 01 53 48 3000, je voudrais vous entendre parce que il est important qu'on partage ensemble votre point de vue, vos commentaires concernant, vous savez, cette jeune femme de 47 ans à Nantes, mère de famille, et qui était visiblement donc avec ce jeune homme qui, je le rappelle, est en garde à vue, un jeune homme de 21 ans, qui lui avait dit au procureur, au magistrat, un besoin irrépressible de violence. Alors, où je m'adresserai aussi aux jeunes femmes qui sont voilées, pareil, est-ce qu'elles se sentent en insécurité parfois ? C'est des questions aussi qu'on se pose, parce que franchement, aujourd'hui, ça m'inquiète. Ça m'inquiète pour plusieurs raisons. Ça m'inquiète parce que la société est en train de prendre une tournure. Ça m'inquiète aussi parce que nous aussi, on est en train de vivre une période un peu égoïste où chacun vit pour soi. Où est passé le partage ? Où est passé, vous savez, cette notion, ces valeurs de solidarité, ces valeurs d'autrui notamment ? Et ça, c'est préoccupant. C'est préoccupant parce que nous, À Beurre FM, en tout cas, dans Les Informés, on a décidé de plus en plus d'en parler, de plus en plus aussi, notamment, vous savez, de mettre les pieds dans le plat. C'est très, très important. Allez, je vais, on a un peu de mal à retrouver notre Samira et son association. Je sais pas ce qui se passe. On a un problème de connexion de ligne, mais on va tenter de la retrouver. Alors, en attendant, vous savez quoi? Je vous attends au standard 01 53 48 3000. Pour parler du meurtre de Nadia Assad. Venez en parler, vous en avez entendu parler, venez en parler, je vous attends au 01 53 48 3000. Cette jeune femme de 45 ans, qui n'a rien demandé d'ailleurs, et qui se retrouvait morte, mère de famille, je voudrais qu'on en parle ensemble. Qu'on en parle ensemble, parce que c'est très important, notamment, vous savez, toutes ces jeunes femmes qui ont décidé de leur plein gré de porter le voile aussi, et qui doivent nous expliquer sur notre antenne, désinformer, est-ce qu'elles se sentent parfois en insécurité quand elles sont dehors. Je voudrais les entendre parce que c'est très important leur témoignage. Je voudrais les entendre aussi, y compris tous et celles et ceux qui nous écoutent ce soir partout en France, parce que c'est important qu'on commente évidemment cet événement horrible, de la même manière que ce meurtre de Lola. Évidemment, tout cela, on doit en parler et c'est notre rôle d'en parler. Allez, je vais accueillir Olivier de Hyères, la ville de Hyères. Bonjour Olivier, bonsoir.
Oui, bonsoir, merci de prendre mon appel. C'est gentil, je suis en voiture en train de rentrer sur Hyères.
Écoutez, c'est avec plaisir.
J'écoutais votre émission, je me dis, tiens, je vais les appeler.
Vous avez bien raison. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, mon cher
Malheureusement, je suis retraité, je ne travaille plus.
Vous avez...
Les gens rêvent d'être retraités, mais se mettre en retraite, c'est épouvantable. Il vaut mieux être dans l'action. Et donc, c'est pour ça que je continue à être dans l'action. J'aime bien les activités. Voilà.
Bon, mais écoutez, vous avez bien raison, cher ami.
Oui, oui. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on a un problème... Je crois qu'il y a un problème de culture en France, plus qu'un problème d'identité religieuse.
Oui.
En France, pour moi, la religion, elle a toujours été libre, elle sera toujours libre. Et qu'on soit croyant, de peu importe en quoi nous croyons, on a une vraie liberté dans ce pays. C'est absolument génial. Par contre, on a un problème de culture qui n'a rien à voir avec la religion.
Oui.
Et quand on voit effectivement la mode qui est provoqué par les gens qui pratiquent l'islam et qui pensent qu'ils doivent mettre tel vêtement pour rejoindre la religion, je trouve que c'est une erreur. Parce que il y a des tas de pays musulmans où on ne porte pas le voile.
Oui.
Il ne faut pas le porter pour être un bon musulman. Et on ne doit pas le porter pour être un bon musulman. Être un bon musulman n'a rien à voir avec ça. C'est un problème de culture que les frères musulmans veulent imposer à une partie de la population. Et c'est là où la population française réagit en disant « Mais non, qu'ils soient les bienvenus dans notre culture. » Et dans notre culture, on ne fait pas ce genre de choses. Et on est bienvenus, peu importe ce que vous croyez, soyez les bienvenus. Tout le monde doit être bienvenu dans ce pays. C'est notre philosophie.
Visiblement, en ce moment, c'est divisé pour mieux régner. Hein.
Mais oui, mais c'est dramatique. C'est dramatique. Écoutez, moi, si on regarde le sur Internet,
et puis cette femme, et puis je voudrais vous entendre sur cette femme poignardée à mort par ce jeune de 21 ans qui a reconnu les faits. Franchement, ça pose problème quand même.
C'est inacceptable. Inacceptable. C'est totalement inacceptable.
Il dit qu'il a été pris d'un accès d'orage qu'il ne maîtrisait plus. Mais qu'est-ce que c'est ça?
Mais il y a des gens qui sont dingues. Les dingues, il faut les arrêter. Il y a toujours eu des crimes objects et odieux. Ça a toujours existé. Il y a toujours des fous. Qu'ils soient dans telle religion ou telle religion, les fous, il faut les arrêter, il faut les interner. Et c'est, bien sûr, c'est ça la vérité. Et peu importe de quelle religion ils sont. Mais la haine pour la haine, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête la haine pour la haine.
Oui.
C'est ça qu'il faut arrêter. Il faut respecter l'individu, peu importe ce qu'il fait, ce qu'il pense. Mais le message que moi je dis aussi, qu'on est religieux, mais c'est très bien, c'est génial. Et la religion musulmane, elle est magnifique. Moi j'ai une maison en Tunisie, j'ai beaucoup d'amis musulmans qui sont tunisiens, mais des femmes là-bas, ils ne mettent pas le voile.
Oui, oui, oui.
Parce qu'elles sont pas dans la culture des frères musulmans. Mais elles sont avocates, elles sont médecins, elles font plein de choses.
Mmh.
Elles disent, mais ça n'a rien à voir avec les religions.
Mmh.
Elles sont de vrais musulmans.
Oui, oui. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Pardonnez-moi, Olivier, mais Je ne saurais vous qualifier qu'est-ce que c'est qu'une vraie musulmane ou une fausse musulmane. Je vous avoue que ça m'échappe un peu. Moi, j'aurais dit tout simplement une musulmane et puis qui vit son islam. Comme elle l'entend. Non, mais qu'elle vive son islam comme elle l'entend. Pratiquée, pas pratiquante.
Oui. Mais il y a un problème de culture. Et la culture des frères musulmans, on n'a pas envie de la voir en France. Ça, c'est vrai. C'est une vérité. La culture française, on a envie de la garder avec les musulmans de France. Et les musulmans en France sont tous les bienvenus. Et regardez le discours de Nasser en 1953. Vous savez ce qu'il dit Nasser, qui est devant l'assemblée que de musulmans. Il n'y a que des musulmans.
Vous faites référence au Nasser l'Égyptien.
Nasser l'Égyptien, qui était en train de bâtir la nation des pays arabes, qui était, malheureusement il n'a pas réussi, qui était fantastique ce qu'il était en train de faire. C'est absolument génial. Et qui dit, on va bâtir notre nation, les frères arabes, oui, mais pas les frères musulmans qui veulent imposer le voile à nos femmes. Et tout le monde éclate de rire. Toute l'Assemblée...
Oui. On est bien d'accord, vous parlez de l'ancien... On est bien d'accord, vous parlez de l'ancien homme d'État, Nasser, en Égypte.
Nasser.
D'accord.
En Égypte. Ça date de 1953.
Tout simplement l'ancien président d'Égypte.
Absolument. 1953, c'est-à-dire il y a 60 ans. D'accord ?
Ouais.
Il y a 60 ans, les femmes ne portaient pas de voile. Elles étaient toutes musulmanes, elles ne portaient pas de voile. Alors c'est quoi cette
Écoutez, vous venez d'ouvrir une voie, eh bien, je vais demander à toutes ces jeunes femmes ou femmes auditrices, de BFM, de venir faire part de leur témoignage et de leur point de vue. Olivier, restez avec moi. Non, mais c'est très intéressant. Oui. Attendez, Olivier, restez avec moi. Oui. Justement, je vais ouvrir l'antenne aussi à une femme qui s'appelle Selma et qui vient de Montpellier. Oui. Bonjour, Selma.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, ma chère Selma ?
Alors, actuellement, je suis employée de banque.
Ma chère Selma, vous avez entendu Olivier ?
Oui, j'ai entendu, oui.
Qu'est-ce que vous dites ?
Alors, plusieurs choses. Déjà, par rapport à ce qu'a dit Olivier et par rapport au meurtre de Nadia. Alors, première chose, par rapport au meurtre de Nadia. Alors, actuellement, c'est catastrophique ce qui se passe en France. Il y a énormément de violences. Il y a la Lola, il y a le meurtre de Nadia. On ne sait vraiment pas ce qui se passe actuellement dans notre société.
Oui.
J'ai l'impression qu'il y a une bascule. Il y a un avant-après, ce que les gens...
Vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure, Selma ? J'ai le sentiment que notre société se radicalise de plus en plus.
Oui.
Ah, mais complètement. Elle radicalise dans la violence. Les gens, il n'y a plus d'entraide. On le voit, il y a vraiment une bascule par rapport à ça. Rapport à ce qui s'est passé pour Nadia, alors bien sûr, dans les deux cas, que ce soit les deux affaires Lola, Nadia, c'est horrible. Par contre, moi, j'en ai discuté avec des amis, ce que je vois, c'est le traitement médiatique qui est complètement différent dans les deux affaires. Donc ça, pour moi, ça pose énormément de problèmes parce que c'est pas la première fois qu'on le remarque. Bien sûr, on n'oppose pas deux victimes, c'est catastrophique dans les deux cas, c'est horrible. Par contre, on ne parle pas des deux affaires de la même manière. Alors pourquoi, à chaque fois qu'il y a une victime qui est d'origine maghrébine ou présumée ou musulmane, on n'en parle quasiment pas, où il faut vraiment que ça fasse un buzz complet dans les réseaux sociaux pour qu'on commence à traiter de la chose. Et là, on sait que Nadia Marhama a porté un voile. On doit se poser la question si c'est pas un meurtre avec une enzyme qui a une islamophobie derrière. Mais ça, on n'a pas le droit de le dire, on a l'impression. On n'en parle pas. Et par rapport aux femmes voilées, je ne suis pas voilée moi-même, mais j'ai beaucoup de copines qui sont voilées. On ne peut pas se mentir, en France, c'est de plus en plus compliqué pour une femme voilée de vivre normalement en France.
Oui.
Elles sont mal vues, elles ne peuvent pas travailler, elles ne peuvent pas avoir des loisirs comme tout le monde, elles ne peuvent pas accompagner leurs enfants dans les sorties scolaires. Je suis déjà sortie avec une amie sur Paris qui est voilée, je peux vous dire qu'elles ont des regards qui sont exécrables des gens.
Oui.
Elles n'ont rien demandé. Et ça passe aussi par le traitement médiatique qu'on a, qu'on fait passer dans les médias sur l'image des musulmans. Et l'image de la femme musulmane qui est soi-disant soumise.
Olivier, vous répondez quoi ?
Pas du tout.
Olivier, qu'est-ce que vous répondez à Selma ? Vous entendez, voilà.
Je respecte, j'entends parfaitement bien ce qu'elle dit. J'entends parfaitement bien, et c'est vrai qu'il faut cette liberté. Mais en même temps, je dis que c'est un problème de culture. Et c'est dommage que les personnes... Moi, j'ai beaucoup d'amis arabes ici en France. Et ils restent entre eux. Vous savez que certains n'osent même pas...
Vous savez pourquoi ils restent entre eux? Parce que justement, on leur a montré, on leur a dit...
Ils n'osent même pas se montrer avec moi dans un bar par rapport à leurs copains.
Mais pourquoi? Faut comprendre. Il y en a un qui l'a très bien expliqué, Olivier.
Exactement.
Il y en a un qui l'a très bien expliqué. Je vous invite à le lire. C'est Pierre Bourdieu.
Oui.
Pierre Bourdieu, grand sociologue de renom, qui est mort maintenant, et qui explique la raison pour laquelle, vous savez quoi, comment dirais-je, les communautés se sont repliées sur eux-mêmes. Il l'explique très bien et formidablement, Médian. Donc, il y a une raison.
Oui.
Qui s'explique.
Je peux comprendre, je l'entends très bien. Je l'entends très bien. Mais effectivement, moi, je suis très, très, très ouvert à la multiculture. Je suis très ouvert.
Mais nous aussi.
Je suis antiraciste à
100%. On est attaché à tout cela.
On est attaché à cela. Et je dois dire que tout le monde a trouvé sa place dans ce pays. Tout le monde doit avoir sa place. Et les excès doivent être punis très sévèrement.
Oui. Oui.
Mais après, il faut aussi que les jeunes qui sont nés en France, qui sont des Français, et qui doivent petit à petit peut-être comprendre la culture française.
Mmh.
Aussi. Et peut-être c'est là.
Eh bien, merci. Merci.
De nous rejoindre.
Merci, Olivier, d'être intervenu.
Oui, je vous aime tous.
Nous aussi, prenez soin de vous. Selma, merci. Dernier mot.
Bah, dernier mot, après, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'a dit Olivier. On peut être français, on peut être musulman en même temps. L'un n'empêche pas l'autre. On doit pas effacer une partie de nous-mêmes pour s'intégrer à une autre partie. On peut être les deux. Ça pose pas de problème en Angleterre, ça pose pas de problème aux États-Unis. La question qui se pose, c'est pourquoi ça pose problème en France. Voilà.
Bien, écoutez. Je voudrais entendre tous les autres auditeurs partout en France. 01 53 48 3000. Merci Selma, prenez soin de vous.
Merci.
J'avais Anissa de Grenoble aussi, n'hésitez pas, et j'en ai plein d'autres. 01 53 48 3000, je vous retrouve dans une poignée de minutes, notamment avec Samira, notre invitée, qu'on a réussi à récupérer. A tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
Il est 18h23, que le temps file, on est inondé au standard. Je vous en remercie infiniment, et vous le savez, vous êtes... terriblement nombreux, de plus en plus chaque soir, et je vous en remercie. Merci de votre fidélité. Vous savez, c'est important, les informer, c'est votre mission d'abord, votre magazine. Alors, avant de retrouver Bilal de Vitry, Abidi de Valence, Fadila de Rouen, Amadou de Grenoble, Asma de Paris, Assina de Grenoble, bref, beaucoup de monde, je voudrais simplement qu'on accueille une association exceptionnelle, Sport à Vie, et c'est Samira Djouadi qui est avec nous. Bonjour, l'interview, c'est parti, jingle, l'interview.
Les informés. L'interview.
Et l'interview, c'est avec Samira Djouadi. Bonjour Samira.
Bonjour Adil.
Comment ça va?
Très bien, parfait.
Bon. Vous êtes notre invité avant de retrouver nos auditeurs là, qui sont très nombreux justement. Dites-moi, chère Samira, vous représentez l'association Sport à Vie qui existe depuis maintenant 22 ans d'existence. C'est beau ça, hein?
Exactement, depuis 2002.
Cette association, à laquelle, qu'est-ce qu'elle, elle est évidemment, elle œuvre pour les jeunes, en direction des jeunes des quartiers populaires, mais pas que, hein, notamment, c'est son objet même, c'est quoi? C'est l'insertion par le sport?
Exactement, c'est l'éducation par le sport, donc permettre aux jeunes issus des quartiers de pouvoir vivre des grands événements sportifs avec tout un programme autour, à la fois de citoyenneté, à la fois d'apprentissage, de culture. C'est de permettre, grâce au sport, d'ouvrir les chakras, on va dire, et de leur permettre de grandir et d'apprendre.
Samira Djouadi, vous qui représentez cette association Sport à Vie, je voudrais vous dire, vous faites aussi rêver les gamins, hein, des quartiers populaires. Le foot, c'est populaire, le foot, c'est fédérateur, et vous continuez de les faire rêver pendant 22 ans. Vous avez fait toutes les Coupes du Monde, me semble-t-il.
On a fait toutes les Coupes du Monde, donc la première, je me souviens comme si c'était hier, quand j'ai emmené 80 gamins en Corée du Sud, pour vivre la Coupe du Monde en 2002. Ça a été extraordinaire. Et on a fait toutes ces Coupes du Monde jusqu'à la dernière qui était en Russie en 2018.
Alors cette année, Samira Djouadi, votre association Sport en Vie, elle a besoin justement d'un petit coup de pouce, notamment de plein de monde. Elle sollicite plein de monde. Et j'aimerais qu'on en parle là aujourd'hui. C'est pour ça que je voudrais évidemment qu'on le traite tout de suite. Vous avez... un an de préparation avec des jeunes, d'apprentissage, de rencontres. Et notamment, là, on parle d'inclusion avec des jeunes autistes. Donc, ça veut dire des jeunes autistes malades.
Tout à fait, tout à fait.
Et vous voulez leur faire vivre une aventure mondiale au Qatar, la Coupe du Monde.
Exactement. c'est la première fois où on emmène avec nous, en plus des gamins des quartiers, des enfants autistes. Donc une expérience extraordinaire, riche humainement. Et un truc extraordinaire parce que on va découvrir avec eux ce grand pays et puis surtout cette Coupe du Monde, quoi.
Et je sais que vous avez besoin d'un coup de pouce. C'est la raison, moi, vraiment, j'ai été touché par votre message et j'ai envie évidemment qu'on contribue tous pour ces jeunes autistes. Moi, vous savez, quand on parle des malades, quand on parle des handicapés, quand on parle... Très honnêtement, je pense que on se doit aussi cette solidarité. Cette solidarité, elle passe parce que vous avez sollicité Hello Asso pour faire appel à des dons. Dites-nous tout, Samira Djouadi.
Exactement. Pour terminer le financement de notre projet, donc on a lancé justement une un lien Hello Asso pour venir en aide financièrement à ce projet, parce que effectivement ce sont des projets qui sont très coûteux, et puis je vous cache pas que le Qatar Bashing, je pensais qu'on allait pas être touché parce que je vais pas dire qu'on est en dehors, mais à un moment donné on y va depuis 22 ans, on va autour de la Coupe du Monde parce que c'est un événement planétaire et c'est comme ça qu'on construit notre projet. Et on a été confronté à effectivement des partenaires qui se sont retirés à cause de ce Qatar Bashing. Et pour moi, il est hors de question que je laisse sur le carreau des gamins, parce que certains ont décidé de boycotter un pays. Moi, je dirais un pays, pas une Coupe du Monde, plutôt un pays. Et pour moi, à la fois, il est intéressant de comprendre, mais de
Vous lancez une cagnotte.
Je lance une cagnotte et donc
et là vous faites appel à la générosité de tout le monde et balancez votre appel. Où peut-on vous aider et comment peut-on vous aider? Moi, je vous avoue je fais un appel à tous nos auditeurs qui nous écoutent partout en France pour vous aider. 10 euros, 20 euros, ce que vous voulez.
Exactement.
Mais ces jeunes autistes vraiment comptent aussi sur vous pour aller vivre cette Coupe du Monde. Comment peut-on faire, ma chère Samira?
Eh ben, c'est simple, on a créé un lien Hello Asso, donc le lien Hello Asso Sport à vie, donc que je vais poster sur ma page Facebook et sur mon lien, donc Samira Djouadi, pour tous ceux qui veulent en tout cas contribuer. Et effectivement, il n'y a pas de petit budget, tout budget permettra permettre à ces gamins d'avoir un sourire extraordinaire et surtout de vivre et de finaliser un projet d'un an et demi tout simplement en fait. Ils ont travaillé depuis un an et demi sur ce projet, sur l'aspect culturel, sur l'apprentissage de l'arabe pour l'ensemble des gamins, alors que pour certains ils ne sont pas du tout musulmans, sur tout ce qu'on va pouvoir découvrir. Oui. Et il est hors de question qu'ils restent sur le carreau.
Alors justement, justement pour ces jeunes des quartiers, pour ces jeunes autistes malades justement, allez leur permettre de vivre cette Coupe du Monde au Qatar. Vous l'avez dit, il y a le lien sur votre page Facebook Samira Djouadi ou alors Hello Asso. Sur
Exactement.
Le lien, vous tapez Sport à vie tout simplement, Hello Asso, Sport à vie, et vous donnez ce que vous voulez. Je fais un appel à vous, chers amis auditeurs, partout en France et dans le monde d'ailleurs. Vraiment,
merci,
allez aider cette association Sport à vie, Hello Asso, justement pour faire rêver ces jeunes malades, ces jeunes autistes et les quartiers populaires notamment aussi, pour leur permettre de vivre évidemment cette Coupe du Monde au Qatar. Voilà Samira, vous voulez lancer
merci
un petit dernier
beaucoup,
appel
Adil.
Peut-être ?
Eh ben, moi je remercie du fond du cœur toute personne qui contribuera à l'élan de la réussite de ce projet.
Merci Samira Djouadi. Vous nous tenez au
merci
courant.
Merci à toi. Avec plaisir, avec grand plaisir. Mais on a prévu de faire des interviews journalières avec toi.
Ah oui, parce que il faut qu'ils se retrouvent. Donc pour qu'ils se retrouvent au Qatar, je fais appel à la générosité, évidemment, de tous nos auditeurs. Comme ça, on leur permettra d'être à l'antenne tous les soirs pour venir nous parler et de nous faire vivre leur expérience.
Exactement.
Absolument. C'est très juste. Je vous le redis, Hello Asso, Hello H-E-2-L-O Asso, Sport à vie, donnez ce que vous voulez, ou sur la page Facebook de Samira Djouadi, justement. Allez regarder ça, elle a mis le lien. Il faut les aider, chers amis auditeurs. Vraiment. Il faut les aider
merci
et elle en a besoin. Merci, Samira Djouadi.
Merci. Merci à toi.
Et je compte à cet élan de générosité, de solidarité surtout, chers amis. On en a besoin. Et évidemment, moi, vous savez, ces jeunes autistes, il faut leur permettre de vivre cette Coupe du Monde au Qatar.
Exactement. C'est une inclusion extraordinaire.
Merci Samira, à bientôt. Allez, je continue de recevoir nos auditeurs.
Merci beaucoup.
Dans l'ordre. Merci Samira, je vous embrasse. Asma de Paris, tiens, Asma de Paris. Asma, bonsoir.
Allô ?
Bonsoir Asma.
Bonsoir.
Comment, qu'est-ce que vous faites dans la vie, ma chère Asma ?
Bonsoir.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Assistante dentaire.
Comment ?
Assistante dentaire.
Bienvenue à vous. Il faut aider cette association Sport à vie. Hein.
Ça tombe très bien parce que moi j'ai un enfant qui est autiste.
Eh ben voilà.
Donc je vais l'aider avec grand plaisir.
Il faut, elle en a besoin, c'est pas normal. Pour aider ces jeunes malades, ces jeunes autistes, et elles galèrent comme ça. Moi, je trouve que c'est pas normal. C'est quoi ça? Enfin, franchement, il y a des choses qui m'échappent. Je vous écoute pour évidemment les sujets que je vous ai suggérés.
Alors, moi, je voudrais revenir par rapport à ce qu'avait dit Olivier.
Oui.
Je vais parler de mon cas à moi. Quand il dit que ça fait 60 ans que le voile. Et là, qu'il y a 60 ans, il n'y avait aucune femme voilée, etc.
Oui.
Moi, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, elle est morte. Il y a 20 ans, elle est morte. Et elle avait 109 ans à sa mort et elle portait le voile.
Oui.
Donc, je ne suis pas trop d'accord avec ce qu'il dit.
Je savais que ça allait susciter des réactions, vous le savez ? Moi, je le savais que ça allait susciter des réactions.
Ah oui, mais ça c'était sûr. Mais je pense que le voile, malheureusement en France, il n'est pas accepté.
Oui. Vous avez le sentiment qu'il n'est pas accepté, vous ?
Moi, ça fait. Du tout. Ça fait un an que je suis voilée. C'est tout récent.
Un an. Donc c'est tout jeune, c'est tout frais. Alors justement, ça m'intéresse votre témoignage, Asma. Comment vous le vivez ? Par rapport à avant, quand vous ne le portiez pas ?
Moi, je vois une grande différence.
Ah oui, vous voyez une grande différence ?
Exactement. Je vois une grande différence entre l'avant. Et après le voile.
Dites-moi, racontez-nous, c'est intéressant.
J'ai le sentiment que depuis que je suis voilée, déjà je ne fais plus partie de la société. Je ne suis plus écoutée. Un exemple tout bête, quand je déposais les chèques pour la cantine de mon enfant, oui. J'allais à la mairie, on m'accueillait, bonjour, comment allez-vous, il fait beau aujourd'hui, etc.
Oui.
Le jour où j'ai débarqué avec mon voile,
oui.
C'est la peine qu'on m'a regardée.
Oui.
Je suis la même maman, j'ai le même enfant, je n'ai pas changé.
À peine si on vous a regardé, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de me dire ? Ça veut dire qu'on vous a presque, comment dirais-je, toisé, on vous a pris de haut.
C'est ça.
C'est terrible ce que vous êtes en train de dire, oui.
Mes premières fois me font peur. J'ai eu la première fois que, enfin, quand on a déménagé, la première fois que je devais me présenter à la mairie de ma nouvelle ville, j'ai eu peur.
Mmh.
La première fois que je dois faire une démarche administrative importante, j'ai peur.
Oui.
Des choses qui avant me paraissaient toutes bêtes, maintenant me font peur parce que je me dis peut-être que ça va freiner le fait que j'ai voile, peut-être que je ne serai pas acceptée dans cette ville parce que j'ai les voiles, etc., etc.
Oui. Mais en même temps, ne vous laissez pas. Attendez, Asma. Ce que vous dites là, bon, effectivement, vous êtes en train de nous dire que vous notez une nette différence entre le moment où vous avez commencé à le porter, donc c'est assumé. C'est assumé, votre voile.
Oui.
Donc c'est un geste, c'est quelque chose, c'est une initiative personnelle.
Exactement.
Donc, ce qui veut dire, vous avez noté cette différence entre cheminement spirituel personnel. Ne vous laissez pas décourager, j'ai envie de vous dire. Enfin, c'est pas parce qu'on vous a toisé ou on vous a pris de haut que vous allez baisser les bras, non ?
Ah non, je ne baisserai pas les bras, au contraire. Et justement, c'est pour ça que j'appelle. J'appelle aussi pour défendre les femmes voilées et j'appelle aussi pour dire qu'en France, on n'est pas accepté. Et pour moi, c'est le meurtre qu'il y a eu. Aujourd'hui, ça ne m'étonne même pas. Parce que quand je vois que j'allume la télé, qu'avec tous les problèmes qu'il y a au niveau de l'essence, au niveau de l'économie, on parle des abayas au collège, au lycée, je me dis, mais qu'est-ce qu'on s'en fout ?
Oui, oui.
Qu'est-ce qu'on s'en fout que la fille a porté une robe trop longue ? On est en train de se battre pour de l'essence.
Oui, c'est vrai. On est... Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure en tout début d'émission, qu'est-ce que j'ai commencé par dire? J'ai commencé par faire un édito en disant « J'ai le sentiment que notre société est en train de se radicaliser de plus en plus. » Et qu'on a perdu la notion de, justement, des valeurs de solidarité, de générosité, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire?
Clairement, on le ressent parce que, enfin, on a vraiment l'impression que c'est maintenant les Arabes avec les Arabes, les Noirs avec les Noirs, les Français avec les Français.
C'est votre sentiment?
C'est mon sentiment, ouais.
C'est votre sentiment.
Est-ce que, et surtout les musulmans à part.
Oui. Les musulmans à part, ça veut dire quoi ça, les musulmans à part? Ça veut dire quoi, les musulmans à part?
Si on n'est pas des musulmans qui rentrons dans le cadre, c'est-à-dire si on n'est pas des musulmans qui sont adaptés, qui peuvent boire un petit verre de vin après, avec les collègues après le boulot, si on n'est pas ce genre de musulmans, eh ben, pour eux, on ne peut pas être accepté.
Oui, oui. C'est, ce que vous dites, c'est notre quotidien, hein, c'est la réalité. Hein.
Oui, moi, clairement, c'est ce que je vis. Mmh. Et moi, je trouve ça dommage parce que, par exemple, quand on se bat pour pas avoir... ils veulent nous donner, par exemple, des piscines à horaires réglementés pour
oui.
les femmes.
Oui.
Moi, je trouve ça dommage parce que c'est pas que pour les femmes musulmanes. Moi, je vais à une salle de sport 100% femmes. Et ben, je peux vous assurer qu'il y a des chrétiennes, il y a des athées, il y a de tout. Des juives, parce que aller dans une salle 100% femme, pour les musulmanes, c'est parce que aussi on n'a pas envie d'être à côté des hommes, au regard des hommes, pas parce qu'on est musulmane, parce qu'on est peut-être une femme, on est plus à l'aise entre femmes.
Eh ben, je vais laisser évidemment tous nos auditeurs réagir à vos propos, ma chère Asma. Merci vraiment d'être intervenue, vous nous avez fait part d'un témoignage précieux. Et puis au plaisir, restez fidèles, hein. 01 53 48 3000, on marque la pause. Merci. Et on se retrouve tout de suite après avec Fadila de Rouen, Abidi de Valence, Bilal de Vitry, Grenoble aussi également. 01 53 48 3000, là tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les informés, présentés par Adil Farkan.
Et les 18h43, nous étions en direct, hein. C'est ça, cher réalisateur. Bon, régler ses comptes tout seul. Bon, bref. évidemment. Non, mais on est en train de, évidemment, comment dirais-je, de lancer quelques pistes de réflexion qui n'aboutissent jamais. Mais bon, voilà, c'est bon. En tout cas, c'est des sujets. On en parlera tout à l'heure. Vous allez comprendre pourquoi. Tiens, Fadila de Rouen. Bonjour, Fadila.
Oui, bonjour.
Bienvenue, on vous écoute, ma chère Fadila. Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je suis artisan traiteur.
Bienvenue, Fadila. Comment vous réagissez face à ces événements, justement?
Alors, bah déjà, face à ces événements, c'est vraiment... On est abasourdi, quoi. On est abasourdi parce qu'on entend. Moi, je voudrais juste réagir parce que j'ai entendu... la conversation en fait entre, je viens d'arriver sur la conversation et j'entends ce monsieur qui dit
Olivier.
J'entends ce monsieur qui dit.
Je savais que ça allait faire réagir. C'est jeunes, pour ça que je lui ai dit et d'ailleurs je l'ai prévenu. Hein.
J'entends qu'il dit que ces jeunes qui sont nés en France comprennent qu'ils sont français. Et moi j'aurais envie de lui répondre. Il faut que les Français comprennent. Que les jeunes qui sont nés ici sont français. Parce que nous, on l'a très bien compris. On l'a très bien compris qu'on est français. On est ici des deux cultures. On est français. On est maghrébin pour la plupart. En tout cas, d'après ce que je comprends, ceux qui appellent. Mais malheureusement, on nous renvoie tous les jours. Et moi, je le vois dans mon métier, parce que je fais les marchés, donc je rencontre énormément de gens. Et on nous renvoie constamment à nos origines. D'où je mets d'où.
Ouais.
De quel pays je suis.
Alors moi, comment ça n'existait pas ça avant? Avant on avait moins ça quand même avant.
Mais là c'est quand même assez, surtout quand on parle plus bien français, qu'on s'exprime bien, qu'on est allé à l'école. Enfin vous voyez, c'est pas comme nos parents, nos arrière-grands-parents. Enfin voilà, là c'est quand même assez. C'est tous les jours on entend d'où venez-vous, d'où venez-vous. Alors c'est gentil, mais ça nous renvoie toujours à nos origines.
Ouais.
Et c'est triste parce que nous, on a bien compris qu'on était français, mais quand on nous renvoie constamment à nos origines, eh bien, je peux comprendre qu'il y ait du communautarisme et que les gens se retrouvent entre eux.
Un repli identitaire, communautariste.
Tout à fait. Tout à fait.
Fadila, merci. Je laisserai le soin, évidemment, à nos auditeurs de répondre s'ils le souhaitent.
Merci
pour vos témoignages. Vous êtes très nombreux. Je ne suis pas sûr de vouloir prendre tout le monde, mais parce que je vous avoue que le standard est inondé. Tiens, Bilal de Vitry. Bonjour Bilal.
Oui, bonjour, comment allez-vous?
Très bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, mon cher Bilal?
Moi, je suis responsable d'équipe.
Bienvenue, mon cher Bilal.
Merci. Moi également, une fois n'est pas coutume, je voulais répondre au premier invité, Olivier, un peu comme tout le monde, mais après...
Enfin, c'est pas un invité, hein, c'est un auditeur qui intervenait.
Oui, exactement, un auditeur. Je voulais juste dire que j'ai entendu, moi, tout le début, et il avait expliqué qu'il était à la retraite et qu'il voulait revenir au travail. Moi, je lui explique, j'espère qu'il nous écoute encore, je lui conseille de retourner au travail, mais de retourner à l'école, parce que... à l'école, on apprend qu'avant de répondre à une question, il faut bien écouter la question. Et là, en l'occurrence, la question, c'est pas le voile, la culture musulmane en France. C'est la question, c'est un crime abominable et odieux qui a été fait sur une mère de famille innocente qui n'a rien demandé à personne et qui a reçu plusieurs coups de couteau et qui est aujourd'hui six pieds sous terre. Donc c'est ça le vrai sujet. Ensuite, je voulais parler d'une chose plus générale, plus importante. Aujourd'hui, moi, je vous écoute très, très souvent, oui. Mais j'appelle pas toujours selon les sujets. Et là, pour moi, je voulais réagir parce que c'est pas juste un sujet comme ça de politique. C'est un sujet qui engage la vie des gens. Parce qu'à cause de ça, il y a des gens, en l'occurrence cette femme-là, mais beaucoup d'autres personnes... sont tués, assassinés à cause de préjugés, à cause de racisme, à cause de discrimination, etc. Et donc, je pense que c'est un sujet primordial et je voudrais attirer l'attention des gens pour que toute notre société comprenne déjà et prenne possession de ce problème qui est en train de miner notre société et de la détruire, de la faire imploser de l'intérieur. Il y a trois entités responsables de ce qui est en train de se passer en France. Mais d'abord, le peuple, les gens eux-mêmes dans la société, parce que c'est nous qui dirigeons notre propre société. Il faut que, comme Gandhi disait, il faut être le changement qu'on souhaite venir, qu'on souhaite voir apparaître. Donc il faut que nous-mêmes, on se change. Deuxième responsable, c'est les médias en général. Il faut qu'ils se remettent en question parce que lorsqu'on voit que dans les villages où il n'y a pas de noirs, il n'y a pas de personnes d'origine maghrébine, que le racisme est plus fort que là où ils sont, c'est-à-dire dans les villes et dans les banlieues, on se rend compte que les gens, en réalité, c'est pas les personnes d'origine maghrébine ou les musulmans ou les noirs qui n'aiment pas. C'est l'image qu'ils reçoivent de ces personnes-là. Ça, c'est avéré parce qu'on fait un comparatif comme en science, vous voyez. Et quand on compare, on voit que les endroits où il n'y a pas d'immigration, ils sont plus racistes que les endroits où il y a une immigration. Donc, c'est pas l'immigration qui dérange, c'est l'image qu'on donne de cette immigration. Et l'image qui est donnée par cette immigration est largement donnée par les médias. Donc, les médias doivent se remettre en question. Et troisième responsabilité, c'est la responsabilité, bien sûr, politique. C'est-à-dire que lorsqu'on est responsable politique, on doit régler les problèmes. Oui. Pas tous les problèmes, mais on a été élu pour les régler. Et effectivement, moi, je suis manager d'équipe, j'ai pas fait l'ENA, etc. Mais il me semble quand même savoir que si on veut changer une société, il faut la prendre des deux bouts. C'est-à-dire quand il y a un problème, il faut du préventif et du punitif. Mmh. Aujourd'hui, et depuis peut-être 30 ans, on a toujours le même débat où la gauche insiste sur le préventif et la droite insiste sur le punitif. Or, pour régler un problème, il faut le régler de manière systémique, c'est-à-dire des deux côtés. Il faut plus de préventif, c'est-à-dire il faut permettre aux gens qui n'ont pas envie de devenir des voyous de ne pas devenir des voyous, parce qu'il y a des gens qui le deviennent par choix et il y en a d'autres qui le deviennent parce qu'ils n'ont pas le choix. Et ça, c'est le premier côté préventif. Et le côté punitif, c'est-à-dire ceux à qui on a donné leur chance et qui, malgré tout, veulent être voyous, il faut les punir. Et je pense qu'il faut passer au-dessus du gauche-droite, bien-mal et du binaire, il faut attaquer des deux côtés. Et je pense que ce sera que de cette manière que
Merci,
les problèmes
Bilal.
Seront résolus.
Merci en tout cas pour, évidemment, cette réflexion de fond et puis ces idées que vous venez de mettre en place. Merci infiniment.
Merci à vous.
Et puis surtout, merci pour votre fidélité.
Mais oui, juste une toute dernière chose que je voulais dire qui me paraît aussi très importante, c'est aussi, il faut savoir qu'il y a beaucoup de crimes aussi qui sont faits aujourd'hui par des personnes déséquilibrées, d'accord ? Parce que quand il y a un crime, des fois on ne sait pas toujours c'est racisme, c'est, il y a aussi, on a beaucoup parlé de l'affaire Lola, etc. Il y a beaucoup de crimes qui sont, des fois, qui peuvent être aussi des psychopathes.
C'est souvent des psychopathes, hein, là. J'aime bien.
Voilà, et pour régler ce problème-là, moi où j'habite, il y a un hôpital.
Et j'en ai à l'appel des noms, hein. Si on regarde la série des sériales, évidemment, psychopathes, on en a à l'appel. Hein. Qu'est-ce que vous disiez, Nadir Kaya ?
D'accord, moi je suis d'accord sur son analyse, sa réflexion de façon générale sur la responsabilité, ce que j'appelle la responsabilité partagée entre le peuple, les élus et les médias. Ça c'est une chose, mais par rapport au dernier propos de l'auditeur, c'est concernant les cas psychiatriques. Aujourd'hui c'est l'enfant pauvre de la santé publique, on en parle très rarement, en banlieue c'est tabou. On sait qu'en France aussi c'est tabou et il y a un vrai problème aussi dans cette société qui est de plus en plus violente, et ce genre de phénomène lié à la psychiatrie, on en parle très peu. Donc dès l'instant on en parle très peu, bah, malheureusement ça va prendre encore du temps, il va encore avoir des gens qui vont malheureusement commettre des actes sous l'emprise de la folie, et là on n'est pas dans la prévention, on est
absolument
dans le constat et l'émotion.
Merci Bilal.
Exactement.
Merci.
C'est pour ça que je voulais parler aussi des hôpitaux psychiatriques, parce que si on enlève tout.
Il faut qu'on avance, Bilal, pardonnez-moi, il faut que j'avance vraiment.
Parfait.
Parce que je me suis mis encore une fois en retard, mais bon, c'est aussi pour ces raisons qui sont extrêmement valables. Merci pour votre pertinence, mon cher Bilal.
Merci à vous, merci. Merci à tout le monde.
Tiens, je vais accueillir juste, allez, parce qu'il attend depuis tout à l'heure, je le sais. C'est Amadou de Grenoble. Bonsoir, Amadou. Amadou, bonsoir. Vous êtes là, Amadou ? Il est parti. Amadou n'est plus là. Bon, je sais pas, le standard va essayer de le récupérer. C'est parti pour le face-à-face.
Les informés. Les informés. Le face-à-face.
Et vous le savez, justement, le face-à-face, c'est avec Nadir Kaya, le président de Banlieue Plus. Bonjour Nadir Kaya.
Bonjour Adil, bonjour aux auditeurs.
C'est avec Rudy Kazi, qui est un élu de, justement, Saint-Germain-les-Arpajons. Bonjour, et le délégué, directeur délégué, justement, de l'Association des élus de France. Bonjour Rudy Kazi.
Bonjour cher Adil.
Aucune erreur.
On n'était pas loin pour Saint-Germain-l'Arpajon, mais pour une fois, vous l'avez bien dit.
Oui, vous avez dit. Hein.
Très connu. Donc
National 20.
National 20, c'est ça, c'est ça. Allez, messieurs, tout de suite, je voudrais vous laisser réagir. Nombreux, beaucoup d'auditeurs ont réagi sur à la fois la mort de Lola, mais également aussi, vous savez, ce meurtre horrible. Ah, les deux meurtres horribles, d'ailleurs. Hein, celui de Nadia, comment dirais-je, qui s'appelle Assad, à Nantes. Messieurs, je vous donne la parole parce que je voudrais qu'on en parle. L'un et l'autre. Et en ce moment même, évidemment, c'est à vous d'en juger s'il y a récupération politique ou pas de l'extrême droite, c'est-à-dire Éric Zemmour en ce moment même pour une marche blanche, mais également aussi le Rassemblement National qui sont en train de marcher pour Lola. Nadir Kaya.
Bon, je vais essayer d'y aller doucement parce que je suis un petit peu speed du fait de la situation où j'ai galéré pour mettre de l'essence. C'est encore un peu difficile aujourd'hui pour aller mettre de l'essence. Moi, je dirais que les deux crimes, certes, sont violents, mais celui de Lola est quand même particulier parce que ça reste un enfant. Bien évidemment, celui de la maman à Nantes est aussi horrible parce que c'est 23 quand même coups de couteau, et pour une maman qui allait au travail et qui était pas loin de la mosquée, d'après ce que j'ai entendu. Donc, c'est, bien sûr, c'est extrêmement violent. Mais Lola, c'est particulier. Pour avoir des enfants et dont un qui a son âge, ça reste un enfant. Donc, on est encore plus touché, je pense, et notamment par la façon dont elle a été tuée. Par cette personne de 24 ans, elle est pas si vieille que ça, hein. 24 ans, ça reste quand même jeune. Et c'est vrai qu'on est tous touchés, il n'y a pas besoin d'être algérien ou français ou quoi que ce soit pour être concerné, il faut simplement avoir un cœur, et on l'est parfois encore plus, comme je disais, quand on est parent, parce que ça reste un enfant. Lola, moi j'insiste sur son prénom parce que j'ai entendu des propos de la part des hommes politiques ou dans les médias parler de cadavres, de petites filles. Déjà là, on est déjà dans l'indignité, quoi. On a déjà oublié son prénom. C'est souvent comme ça quand une personne meurt, on parle d'autre chose. Mais c'est important de garder son prénom en mémoire parce que elle s'appelait Lola et elle avait 12 ans. Bah, je suis comme tout le monde. Moi, je constate que la société, c'est ce qu'on disait auparavant, est de plus en plus violente et que souvent nos enfants peuvent être touchés. On a souvent vu des bagarres entre jeunes ou des jeunes s'entretuer ou des jeunes être concernés par ce type de violence. Donc, à un moment donné, les constats, c'est bien. J'ai un certain âge. Vous avez tous un certain âge. On sait que la France et de façon générale le monde est de plus en plus violent. Mais la récupération politique, elle est naturelle, hein, dans cette France-là, dans cette façon de faire de la politique. Et ça démontre aussi que les politiques sont là.
L'extrême droite, justement.
Bah, l'extrême droite, Monsieur Zemmour, parce qu'il n'existe plus politiquement, donc il est obligé de faire le buzz. Je crois qu'il y a eu un truc vraiment indigne à travers le fait qu'un de ses camarades idéologiques a acheté un hashtag Lola pour récupérer. Je crois que c'est le premier qui a lancé la récupération. Le RN les a suivis, mais par la suite, ils se sont dit, vu l'émotion qu'il y a derrière tout ça, on va éviter de manifester, de marcher avec Zemmour, parce qu'on n'a rien à voir. En fin de compte, ils ont tout à voir. Mais là, c'est aussi du jeu politique. Et ça, c'est, je dirais, c'est scandaleux, mais et à la fois, ça ne nous choque pas, parce que ces gens-là ne vivent que du buzz, l'extrême droite, même l'extrême gauche, hein, aujourd'hui. Et on en revient à ce que disait aussi un auditeur précédemment, c'est qu'on perd du temps avec ces partis politiques de gauche comme de droite. En fin de compte, aujourd'hui, tous ces partis confondus sont déconnectés de la réalité, parce que même si pour certains ça reste des élus de terrain, quand il y a des soucis comme ça qui sont liés à des faits divers extrêmement violents, la première chose qu'il y a à faire, je pense, c'est d'avoir déjà un instant de marquer le temps.
Et je vous interromps, parce que le réalisateur me dit qu'il faut absolument lancer la pause pub. On se retrouve dans une poignée de minutes, promis. Et on va en parler justement. Ouais, ça tombe toujours sur vous. C'est ça.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
18h53 et Les Informés, c'est avec Nadir Kaya. Les Informés, c'est également aussi avec Rudy Kazi, mais vous aussi au 01-53-48-3000. Rudy Kazi, on vous écoute notamment pour la mort de Lola, mais également aussi la mort de Nadia Assad sur Nantes. Deux faits divers complètement différents, mais on est là aussi pour en parler.
Bah écoutez, déjà, je pense que la première des choses à dire, c'est que si jamais la famille pouvait nous écouter, nous leur adressons nos condoléances les plus plates et les plus attristées. Quant à quelque chose qui est un drame pour une famille, voilà, on a des enfants, moi j'en ai plusieurs, je suis père d'une grande famille, donc je suis touché par cette situation, et en fait, plus j'y pense, plus je passe par plusieurs sentiments entre le malaise, entre l'énervement et puis de la tristesse en fait. Donc ça c'est la première des choses à dire, mes condoléances dans un premier temps. Et la deuxième des choses c'est que il y a un membre de notre famille, notamment de notre épouse, qui a connu cette jeune fille parce qu'elle était licenciée dans son club d'aérobic, à Pantin, quelque chose comme ça. Donc à côté du 19e arrondissement, et qui a mis à disposition effectivement un appel aux dons pour soutenir la famille. Je le mettrai sur mon mur si certains veulent le retrouver. La troisième des choses que je voulais dire, c'est que c'est un cas quand même assez particulier, parce que on présente cette affaire d'un point de vue en fait immigration, ce qui me déplaît fortement. Et donc on va sur les débats des OQTF, etc. Je trouve que c'est inélégant par rapport à la douleur de la personne, enfin de la famille, alors qu'on devrait parler des vrais sujets en fait. C'est-à-dire là en l'occurrence c'est une femme qui a été dérangée a priori sur le plan psychologique. On parle d'une femme qui
déséquilibrée,
qui avait perdu ses deux parents et qui a priori avait perdu
subi des violences.
Qui a subi des violences, qui a une sœur aussi qui est actuellement à l'hôpital, donc peut-être qu'elle s'est retrouvée dans un moment où elle a perdu totalement la boule et a effectivement perpétré cet acte ignoble, inhumain, abominable, parce que là on est vraiment dans l'abomination. On parle quand même d'une jeune fille qui a subi des sévices sexuels avec des objets contendants, des choses absolument ahurissantes du point de vue de l'imaginaire. Et qui a été tué lâchement, c'est dégueulasse. Enfin bref, donc c'est une première chose. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut noter d'un point de vue social et d'un point de vue sociologique, c'est la question de la santé mentale d'un certain nombre de Français qui peuvent effectivement ne pas être suivis ou bien sortir du suivi de l'État. Et là, c'est une vraie question parce que. En fait, on est toujours en fait dans l'immédiateté de la réaction. On vit dans une société déjà où il y a pas mal de réactionnaires, mais aussi on est dans l'immédiateté, on est dans la spontanéité
dans
de la réaction. Et bien entendu dans l'émotion. Donc de ce point de vue, le gouvernement va réagir dans l'émotion. Et comme du point de vue de l'Assemblée nationale, vous le savez bien, le gouvernement actuel n'a pas la majorité, ça va être soit la NUPES, soit le Rassemblement national qui va lancer un peu des sujets et on a vu effectivement que la France pendant l'élection présidentielle s'est extrême droitisée. Donc ils sont allés sur le sujet de l'OQTF qui pour moi n'a absolument rien à voir. Alors même si effectivement il y a un problème sur les OQTF, évidemment, puisque sur les quoi on est sur.
Mais on a quand même reproché au gouvernement d'être trop laxiste sur les sujets de l'immigration. Vous dites quoi, vous?
Parce qu'aujourd'hui. Alors, j'aimerais dire quand même une chose. Je ne suis pas particulièrement macroniste, même si je pense que l'action du gouvernement, tant qu'elle est bien, il faut l'accompagner. Mais c'est sous le mandat de Macron, en tout cas le premier mandat, qu'il y a eu une progression des augmentations, non seulement des OQTF, mais des exécutions de l'OQTF. Parce que l'OQTF, c'est la prononciation donc, d'une obligation de quitter le territoire par un préfet. Et derrière, il y a des exécutions qui sont mises en place. De ce côté-là, Emmanuel Macron a augmenté ses chiffres. Il y a eu un petit tassement, évidemment, pendant la crise du Covid-19, mais il y a eu une
augmentation. Mais dire que sur le chiffre de l'immigration, en tout cas, il a fait le taf.
Et 2019. En tout cas, sur la question des OQTF. Sur la question des OQTF. Et après, au niveau européen, c'est pas une question qui est aussi facile à traiter, même pour d'autres pays européens. Donc, sur cette question-là, je pense que c'est un faux débat, même si c'est vrai qu'il y a cette question d'OQTF qu'il faut mener un peu plus à bien. Et là aussi.
Donc, le gouvernement n'a pas été laxiste.
Je pense que le gouvernement est dans une marche de vouloir progresser sur ces questions. Mais sur la question de l'OQTF, il y a aussi la question aussi de la diplomatie avec les États dont sont ressortissants les personnes qui doivent être expulsées. Et là aussi, ça demande effectivement un peu plus de stratégie.
Concernant la récupération politique par les extrêmes droites.
Alors sur la récupération politique.
Et je donnerai la parole à Nadir Kaya.
C'est détestable en fait parce que en fait ils font de la récupération parce que c'est un sujet pour eux. Je l'ai dit, il y a un contexte à l'Assemblée. L'opposition se sent forte, donc ils vont lancer des sujets comme ça pour pouvoir mettre à mal l'hégémonie, il y en a pas, mais mettre à mal la position du gouvernement. Donc mais vis-à-vis de la famille qui est endeuillée, je trouve que c'est pas correct. Et vis-à-vis d'une situation qui, elle, a besoin d'être solutionnée, c'est incorrect. À un moment donné, il faut se poser la question de ce qui ne marche pas, et c'est le suivi, à un moment donné, d'un certain nombre de malades. On parle d'une France, quand même, qui est de plus en plus sinistrée en termes de pouvoir public, de désertification médicale.
Service public.
Médical. Vous savez, on en a parlé dans le livre que j'ai présenté dans une autre émission que vous animez. Il y a cette question-là. Et lorsqu'on parle de désertification médicale, il ne s'agit pas seulement du médecin généraliste à la retraite qui n'a pas été remplacé par un jeune. Il s'agit aussi de toutes ces personnes qui ont des maladies mentales qui ne sont pas suivies et qui, des fois, doivent aller de banlieue parisienne jusque sur Paris pour aller trouver des médecins. C'est inadmissible. Donc, à un moment donné, et je finirai là-dessus, vraiment en une phrase de cher Nadir, c'est que la réaction par l'émotion, c'est bien lorsqu'il faut s'indigner de ce qui se passe. Et là, en l'occurrence, en tant qu'être humain, on est forcément indigné par ce qui se passe. Mais on parle de politique et on parle, en termes de politique, on doit parler de vision et de prospective. Quelle est la politique du gouvernement et donc aussi les propositions des oppositions en matière de développement des infrastructures médicales, de réformes médicales? Outre les difficultés qu'il peut y avoir avec parfois des lobbies, il y a des lobbies médicaux en France, faut-il le rappeler, pour présenter un plan concret sur un certain
nombre d'années. Restons sur le sujet, s'il vous plaît, restons sur le sujet.
Mais le sujet, c'est ça, Adil, c'est vraiment la santé publique et la santé...
Concernant sur la récupération et sur le laxisme qui est reproché au gouvernement.
Je garantis que si on suivait un peu mieux les Français, il y aura moins de situations comme celle-ci.
Oui, et puis les Français aussi doivent se suivre eux-mêmes aussi. À un moment donné, il faut savoir se prendre en main sur certains aspects, notamment sur l'engagement citoyen. Moi, ce que je voudrais dire sur...
Sur le laxisme et sur la récupération politique.
Le laxisme, après, c'est compliqué. Bon, c'est compliqué. Moi, j'ai un regard d'un simple citoyen lambda. Je ne suis pas politisé. Donc, je ne vais pas taper sur le gouvernement pour taper sur le gouvernement. Effectivement, il y a des chiffres qui sont annoncés. Quand on entend les chiffres, on comprend que l'État a quand même fait des choses. Après, bien évidemment, on peut toujours critiquer et dire que ça peut être mieux. Mais c'est quand on est au pouvoir qu'on fait les choses. Généralement, on le voit aussi avec la NUPES et d'autres, ils tenaient des propos ou des postures. On l'a vu notamment quand il y a eu des petits problèmes en interne liés à des agressions dites sexistes ou liées à des violences faites aux femmes. Entre ce qu'ils disaient auparavant et une fois qu'ils sont au pouvoir, c'est un peu plus délicat, notamment en termes de réponses et d'avis tranchés. Moi, la récupération, c'est ce que je disais précédemment, elle est de bonne guerre en politique, malheureusement. Et on a habitué les Français comme ça à réagir de façon émotionnelle, et preuve en est, le gouvernement, lui aussi, tombe dans le panneau en essayant de faire entendre sa voix et donc de réagir de façon émotionnelle sur des sujets qui sont des sujets de fond. Après, le fait qu'on aborde le sujet lié à l'immigration et tout ce qui s'ensuit, bien évidemment, c'est malheureux pour la famille. parce que la famille, je ne pense pas que ça l'intéresse, ce genre de débat. Mais ça reste un vrai sujet, l'immigration. Est-ce qu'aujourd'hui, la France, elle est capable d'accueillir tout le monde de la même façon ou d'accueillir de façon sélective avec des mesures bien précises? Je ne pense pas que le gouvernement se soit penché là-dessus, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu la situation de la France de façon générale, il y a des priorités, et parmi les priorités, il y a encore d'autres priorités. On a évoqué le domaine de la santé, là aussi, c'est un vrai problème, le domaine de l'éducation, la santé publique, les déserts publics, médicaux, et tout ce qui va avec. Il y a tellement de problèmes en France qu'on s'aperçoit qu'en fin de compte, à chaque situation telle que celle-ci, d'un drame, d'une tragédie, on va aller dans l'émotion, mais on va passer à autre chose tout de suite, sans aller, en fin de compte, dans ce qu'on souhaiterait faire, que ce soit les politiques ou les Français. Donc, à un moment donné, je pense que les Français doivent pousser suffisamment les politiques pour comprendre qu'on n'a plus le temps de réagir dans l'émotion ou de réagir comme ça avec des petites phrases qui font le buzz. Les Français ont des vrais problèmes, on le voit notamment avec la crise énergétique, ce qu'on va nous imposer prochainement avec les mesures drastiques qui vont arriver, notamment liées à la saison hivernale. Donc à un moment donné, sur les politiques, c'est toujours pareil. Moi, je le vois en tant que simple élu dans ma société. Si les Français veulent que ça change, il faut s'impliquer politiquement. Ça, c'est une réalité. N'attendez pas tout des politiques. Les années passent, on s'aperçoit qu'en fin de compte, on attend tout des politiques et on est régulièrement déçu par les politiques. Donc aujourd'hui, s'il y a une autre façon de faire de la politique, j'invite tous les Français à le faire et ne pas attendre après la gauche ou la droite pour croire à des solutions qui n'ont pas été capables de résoudre depuis 20, 30 ou 40 ans. Il faut rafraîchir le paysage politique, il faut faire de la politique autrement, sélectionner les vrais sujets qui nous touchent, qui touchent nos enfants, et après on pourra commencer à éventuellement à faire du buzz à travers des petites phrases. Là, on n'a plus le temps de faire du buzz.
Puis l'indécence politique, à un moment donné, ça suffit. C'est vrai qu'on...
Oui, mais ils le disent tous. Ils le disent tous. Ils se plaignent les uns les autres. Ils rentrent dans cette petite guerre en disant c'est indigne ce que vous faites. Mais ils le font eux-mêmes et ils alimentent eux-mêmes ce circuit sans fin.
Et en plus, parfois, dans des propos extrêmement violents, on l'a vu la semaine dernière, je crois que c'est Bruno Le Maire qui a été traité de lâche par un député de la France Insoumise. À un moment donné, il ne faut pas reprocher aux Français de gonfler les statistiques de l'augmentation de la violence quand soi-même, on n'est pas assez responsable de sa parole. Mais après, effectivement...
Ou exemplaire, surtout de la part de nos politiques.
Oui, voilà. L'exemplarité. L'hémicycle, c'est quand même la représentation des Français. Maintenant, après, c'est vrai que si on peut s'indigner dans le cadre de la politique, etc., mais à ce moment-là, faites dans l'émotion, ok, mais proposez aussi des choses concrètes.
L'émotion ne pourra jamais la retirer, elle est tout à fait naturelle. Après, il faut savoir...
Soit en matière donc de gestion des OQTF, d'ailleurs, j'ai noté les chiffres, en 2019, 129 000 OQTF prononcés, 14 700 exécutés, en 2020, 107 000 prononcés et 7 376. Oui. Donc on voit qu'il y a une augmentation et puis au niveau du Covid, il y a eu un tassement. Donc à ce moment-là, que ce soit l'opposition ou le gouvernement, qu'il y ait des propositions concrètes pour savoir comment est-ce qu'on peut un peu mieux gérer l'immigration irrégulière, etc. Tout en proposition aussi un schéma d'accueil intéressant, complet, pour les personnes qui sont là pour bosser, et d'ailleurs, en général, les immigrés qui sont en France travaillent et payent des impôts. Et surtout aussi qu'il y ait des propositions en matière de santé mentale pour ces Français, parce que la santé mentale, c'est pas uniquement des personnes qui pètent les plombs, etc. C'est aussi des personnes qui, a priori, avaient une bonne vie, enfin, entre guillemets, ça allait, et qui, puis, du jour au lendemain, perdent leur boulot. Ça peut être le cas, par exemple, des gilets jaunes dans des zones sinistrées de la France, etc. Et qui, par rapport à la réalité sociale, ça peut aller vite, hein, perte de boulot, divorce, etc., un enfant qui tombe malade, il y a des gens qui peuvent péter les plombs comme ça. Donc il y a la question mentale, il y a aussi la question sociale.
Nadir Kaya, je suis d'accord, mais par rapport à la question de l'immigration ou du sujet lié à l'immigration, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui la France dépend de l'Europe notamment, et que si on commence déjà à avoir un débat au niveau interne, au niveau national, c'est une bonne chose, mais on ne pourra pas avancer aussi dès l'instant où il n'y a pas d'harmonisation au niveau européen. Donc ça, c'est un petit peu des débats sans fin dès l'instant où on dépend de l'Europe sur des sujets comme ça, même si c'est des sujets qui sont important pour les Français, il y a une réalité européenne. Moi, c'est pour ça que moi je suis pour que la France sorte de l'Europe ou fasse un travail différemment avec les autres pays européens, parce qu'on n'avance pas malheureusement à cause de ça. Donc on peut avoir tous les débats, toutes les réflexions qu'on veut, dès l'instant où on est dépendant des autres pays qui, en matière d'immigration, ont pratiquement chacun leur politique, on ne pourra pas avancer même au niveau national.
Messieurs, nous allons continuer d'avancer. Les 19h11, si vous venez de nous rejoindre, sachez-le. Le débat a eu lieu. Ça, c'est une déclaration justement de Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, en parlant du 49.3, il dit que lui, clairement, le débat a eu lieu sur le budget. Alors, messieurs, le 49.3, justement, c'est Nadir Kaya, et quel risque justement sur
pour cela? Je suis scandalisé, mais ce qui me dérange un peu, c'est que les Français, là aussi, en termes de réaction, après, j'ai pas toutes les réactions, mais bien évidemment, moi, quand je vois dans mon milieu professionnel et personnel, le 49.3, moi qui pensais que Macron allait faire de la politique autrement, autrement, en ayant une position ni de droite ni de gauche, on s'aperçoit qu'en fin de compte, il fait comme tout le monde, parce qu'une fois que tu es au pouvoir et que tu veux passer une loi, et tu sens, surtout aujourd'hui, dans le climat et dans la configuration de l'Assemblée nationale, c'est très difficile pour lui de pouvoir avoir la majorité. Donc, il va se retrouver très souvent, je pense, à faire des 49-3, et ça, c'est pour moi, personnellement, c'est antidémocratique. C'est anti-essence même de la vision que j'ai de la politique. Là, on voit bien que c'est quelque chose d'archaïque, c'est quelque chose qui est très vieux, que beaucoup de partis ont mis en place, ou de gouvernements de gauche comme de droite. Aujourd'hui, je pense que là aussi, il faudrait avoir une réflexion d'un point de vue démocratique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut continuer à subir la volonté d'un gouvernement qui peut se sentir mal à l'aise ou se sentir minoritaire dans un sujet aussi important que les sujets qu'on va aborder prochainement? Donc le 49-3, pour moi, c'est une honte, c'est une régression, et ça démontre à quel point, quand on est au pouvoir, quand on veut faire passer des choses, on le fait, et puis on emmerde les Français.
Rosicazi, tiens.
Ça part en fait de la situation actuelle à l'Assemblée nationale, comme je le disais tout à l'heure. Le gouvernement a une majorité relative, donc ils ne peuvent pas compter sur leur majorité pour faire passer des textes de loi. Et là, en l'occurrence, on parle du projet de loi donc sur le budget, sur le projet de loi de finances pour l'année 2023. Donc c'est quelque chose qui est éminemment important. Là, on est dans le régalien. On est sur des questions en fait d'autorité du gouvernement. À savoir, si ce projet de loi ne passait pas, c'est le gouvernement qui serait totalement désabusé, qui perdrait, entre guillemets, sa légitimité de fonctionner. D'abord, sur le 49-3, donc, c'est un article de la Constitution qui permet effectivement de passer sans vote certains projets de loi. Mais le problème, c'est qu'en utilisant le 49-3, le gouvernement, enfin la majorité du moins, engage sa responsabilité.
On marque la pause et je vous redonne la parole. À tout de suite, ne bougez pas, restez surtout avec nous pour continuer de parler des deux sujets qui restent donc évidemment qui sont au sommaire. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, et les informés présentés par Adil Farkan.
Dernière ligne droite, 19h20. Les informés, c'est avec Nadir Kaya. Les informés, c'est aussi avec Rudy Kazi. Continuons, j'avais dit, donc, effectivement, juste avant la pause, retour de la parole de Rudy Kazi concernant, donc, effectivement, le 49-3.
Oui, voilà, donc, le 49-3, il y a, effectivement, ce passage, comme on dit, ce passage en force. Voilà. Et... moi, effectivement, je trouve que c'est pas une bonne chose dans la mesure où, alors, effectivement, même si la loi le prévoit, mais c'est pas une bonne chose parce que ça nie, on va dire, la représentation démocratique de l'Assemblée nationale. Bon, maintenant, il faut dire une autre chose, c'est que on est dans un contexte qui est quand même assez particulier où le gouvernement n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée, il a une majorité relative, et donc. On est vraiment là, moi, je pense, dans la limite du fonctionnement constitutionnel de l'Assemblée nationale. Je rappelle que l'Assemblée nationale, ce sont des députés, donc la représentation nationale.
Bruno Le Maire, il vous dit que le débat a eu lieu.
Sans l'opposition.
Est-ce que le débat a eu lieu? À partir du moment où on met en place le 49-3, c'est que on veut pas aller jusqu'au bout du débat, parce que ils savent bien que comme ils n'ont pas la majorité relative, les alliances, parce que sur ce projet en question, notamment la motion qui avait été déposée par la NUPES, c'est sur l'article qui concerne les super profits. Donc c'était le MoDem qui avait déposé l'entremise effectivement de Bayrou et ça a été suivi par le Rassemblement National et par la NUPES. Donc ils savent que il y a l'abstention des LR,
le gouvernement.
Mais ils n'ont pas les LR, n'ont pas besoin de le voter pour qu'il.
Oui, mais le fait de s'abstenir, ça aide le gouvernement à passer.
Ce que je voulais dire par rapport à ça, du coup, c'est que si on comprend cette logique, je vais pas dire que c'est normal que le gouvernement agisse de la sorte, mais ils sont presque en fait dans la situation où ils n'ont pas d'autre choix que de le faire. Et j'aimerais rappeler quand même que si on en est là dans cette situation, c'est parce que les élections législatives, pour une fois, je crois depuis Mitterrand, il n'y avait pas eu autant de difficultés à les remporter de façon large. Et donc, ça fait qu'il y a des oppositions qui sont fortes. Moi, je pense que, voilà, certains seront peut-être pas forcément d'accord avec moi, mais je pense que ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale, d'une certaine manière, c'est pas une mauvaise chose. C'est-à-dire, en fait, d'avoir des oppositions fortes. Pourquoi ? Parce que depuis la loi, effectivement, de réforme de la Constitution, donc je crois que c'est 2001, où on a réduit, donc on est passé du septennat au quinquennat, mais on a aussi changé le calendrier en mettant les élections législatives juste après l'élection présidentielle, ce qui donne ce qu'on appelle le fait majoritaire. À ce moment-là, monarchie républicaine, les constitutionnalistes aiment bien ce terme-là, pour dire en gros que le président, il va gouverner comme il veut. Là, en fait, on est dans un cas où le fait majoritaire n'est pas arrivé et on se retrouve dans le cas où, de temps en temps, on avait... À l'époque, les élections législatives qui arrivaient à mi-chemin de l'élection du mandat présidentiel, ce qui permettait une respiration politique et un peu plus de débat. Les députés sont la représentation nationale et ils ne sont pas, entre guillemets, les fantassins du gouvernement. Donc on revient dans une situation qui permet du débat. Et le gouvernement, face à ça, se dit, mais attendez, sur le précédent quinquennat, on était en capacité de faire passer les projets de loi comme on voulait. Là, on n'a pas la majorité absolue. Donc, on utilise le 49-3. C'était couru d'avance.
Mais non, juste à la question, les motions de censure, notamment la NUPES, qui risquent de se multiplier.
Oui, mais là, ils sont dans leur rôle. Je pense que ça va être comme ça pendant tout le quinquennat, malheureusement. Mais le problème, là aussi, au-delà du fait que certains peuvent se satisfaire de la représentation qui est celle de la France aujourd'hui, notamment de celle qui a voté, c'est une France qui est morcelée.
Allez.
C'est une France qui est éparpillée, mais globalement, je ne pense pas que ça va faire avancer les vrais sujets.
Monsieur, dernier sujet, il est 19h24 déjà.
Attention à la dissolution de l'Assemblée.
Washington qui dit... Oui, il y a la dissolution aussi.
Ben, ils ne vont pas faire que du 49-3, la dissolution risque d'arriver.
Oui, oui. Dissolution doit se... dissolution.
Je vois Washington. Qu'elle fait plus de 49-3, je crois.
Non, Rocard. Non, Rocard.
Un homme de gauche.
Rocard.
Donc Rocard. À partir de là,
c'est pas juste. C'est celui qui est le Rocardman.
Le Rocardman. Le Rocardman.
Si mes souvenirs sont bons. Oui, oui, si, si. Mes souvenirs sont bons. Je suis pas si flingué que ça. Ouais. Le Rocardman du 49-3, celui qui a dégainé le plus de 49-3, c'est Michel Rocard.
Voilà.
T'as raison. C'est très juste.
Donc c'est pas propre à la gauche ou à la droite. C'est
et en plus, vous savez quoi, ça lui a valu quoi? En plus, ça lui a valu du succès.
Oui, oui, tout à fait.
En plus.
Bon, c'est pas la même époque, le même sujet.
Non, c'est pas la même époque, c'est pas les mêmes sujets, c'était pas la même, évidemment. Et Rocard qui avait une majorité relative aussi, un peu la même configuration. Mais c'est celui, effectivement, qui est le recordman du 49-3. Washington qui doit se préparer maintenant, vous savez quoi, à une invasion chinoise de Taïwan, selon un amiral américain. Oui, c'est le chef des opérations navales américaines qui s'est exprimé et qui a affirmé que Pékin souhaitait s'emparer de Taïwan à un rythme beaucoup plus rapide. Je referme les guillemets. Ça craint, messieurs ? Carrément. Nadir Kaya.
C'est compliqué parce que déjà, on est dans la situation qu'on connaît tous, notamment par rapport à l'Ukraine et à Poutine qui apparemment ne veut pas céder, qui continue à vouloir occuper l'Ukraine et à les bombarder quand il le souhaite. Moi, ce qui me désole après par rapport à la position américaine, les Américains, franchement, j'en ai rien à foutre parce qu'ils n'ont pas de leçons à nous donner d'un point de vue géopolitique avec tout le bazar qu'ils ont fait depuis 40 ou 50 ans. Donc après que la Chine souhaite envahir Taïwan sous le prétexte que Taïwan anciennement faisait partie de la Chine et que, en fin de compte, c'est simplement un peu comme Poutine, hein, quelque part, qui revendique certains territoires liés à son histoire... C'est toujours pareil. Moi, ce qui m'intéresse, notamment par Taïwan, parce que jusqu'à preuve du contraire, ils sont encore indépendants, je pense, hein, même s'il y avait un élément politique qui leur donnait une date limite, entre guillemets, pour revenir sous l'effigie sous la tutelle de la Chine. Ce qui me pose problème, c'est toujours pareil. C'est si on en arrive vraiment à une situation extrême, la Chine peut dire quelque part, Poutine a fait ça avec l'Ukraine. Nous, on est suffisamment forts et armés et surtout indépendants politiquement de qui que ce soit. Donc, du jour au lendemain, et puis on connaît un petit peu le régime chinois. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la Chine serait capable d'envahir Taïwan. Bien évidemment, ça emmerderait géopolitiquement les États-Unis et d'autres pays. Cette alliance qu'il y a avec l'Angleterre, l'Australie et d'autres pays, parce que c'est une zone aussi qui est surveillée militairement à travers surtout le maritime et l'aérien par tous ces pays-là qui sont en alliance avec les États-Unis. Donc, à un moment donné, qui se positionnent comme ça, parce que c'est des gens qui se partagent le gâteau. Hein, la planète, pour eux, c'est un gâteau.
Ouais.
Moi, ce qui me désole aujourd'hui, c'est qu'il y a des grandes puissances encore qui se permettent de croire qu'ils sont vraiment les chefs du monde et qui peuvent intervenir ou juger qui que ce soit dans le monde. Là aussi, on a besoin d'exemplarité. Les Américains ne le sont pas.
Inquiétude ou pas inquiétude, mon cher Rudy Kazi ?
Alors, inquiétude...
Le micro. On n'a pas le micro. Si ? Ah bon, il y a un problème.
Là, en fait, je pense qu'il faut...
Non, ça ne marche pas. Non, ça marche pas. Il y a un problème, je sais pas, il y a un problème. Il y a un problème de micro. Je sais pas, je crois qu'il y a un problème de micro. Allez-y.
C'est bon, 1, 2, 1, 2.
Non, il va falloir changer de micro. Je suis désolé, mais il y a un problème de micro. Il y a un problème de micro. 1, 2, 1, 2. C'est rapproché.
Allô, allô. 1,
là, 2, c'est 2. Mieux. Voilà, oh, là, okay. Vous êtes. Alors, on a un problème de micro, là.
Ouais. Toujours, c'est toujours sur Max, ça tombe.
Non, non, la dernière fois c'était ici.
Quand tu parles trop longtemps,
ça y est, voilà, c'est trin, trin, trin.
On essaie de museler ceux qui ont des choses à dire. Non, je plaisante. Alors, non, d'abord, ça doit être la question de. Il s'agit là de la question de l'autodétermination du peuple taïwanais. Mmh. Est-ce que le peuple taïwanais veut être indépendant de la Chine? Ça, c'est le premier sujet. Est-ce que la Chine a le droit d'agir comme elle le souhaite, comme elle l'escompte, vis-à-vis de Taïwan? Deuxième sujet. Troisième sujet, le concert des nations doit-il soutenir ou la Chine ou la Taïwan? Bien évidemment, je répondrai à la première question sur l'autodétermination. La Taïwan a absolument le droit.
Ils ont déjà voté.
D'être indépendante vis-à-vis de la Chine. Il s'agit d'un État, effectivement, qui est quasiment souverain aujourd'hui, puisqu'ils se sont désolidarisés de la Chine, et ça fait déjà un bon moment. Et ils fonctionnent comme un État souverain. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, par rapport à la Chine, si effectivement, si on doit être inquiet, bah, écoutez, je pense que vous êtes au courant, il n'y a pas plus de 3 ou 4 jours, il y a eu le congrès donc du parti de Xi Jinping qui lui a redonné sa confiance pour à nouveau être le président de la République populaire de Chine. Je rappelle quand même que ça fait déjà 10 ans qu'il est là. Il a déjà atteint le maximum de Mao Tse-tung et il va certainement le dépasser avec cette prolongation. Et durant son discours effectivement d'intronisation, il a parlé de la réunification avec la Chine. Les termes sont importants. Réunification, ça veut dire que dans l'esprit de la Chine, Taïwan, c'est la Chine. Donc, c'est un terme quasi, on va dire, édulcoré pour dire qu'on va reprendre la Chine. Et il a même dit que
reprendre Taïwan.
Voilà, reprendre Taïwan, pardon. Il a même dit qu'il voulait pas forcément aller forcément par la force, mais il n'exclut pas de reprendre Taïwan par la force. Donc effectivement, l'alerte qui est lancée par les Américains, il faut la prendre au sérieux par rapport à ce que Xi Jinping a pu dire. Donc là, effectivement, il va falloir rentrer dans une discussion pour éviter l'escalade, même si effectivement les Américains, alors effectivement, on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais là, en l'occurrence, moi je pense qu'ils sont du bon côté, puisqu'ils sont du côté de Taïwan, qui s'est autodéterminé pour avoir leur indépendance. Et je rappelle que la plus grande base américaine se trouve dans l'océan chinois à quelques kilomètres de la Taïwan.
Merci à Nadir Kaya, président de Banlieue Plus, au plaisir.
Oui.
À très vite. Hein. Merci à Rodine Kazi, au plaisir.
Au plaisir.
Élu à Saint-Germain-les-Arpajons, mais également aussi délégué général de l'association des maires de France. Voilà.
Des élus de France.
Des élus de France, tout simplement. À la réalisation, c'était Salem. Merci à la réalisation. Et puis merci aux nombreux auditeurs au 01 53 48 3000. Milan Lendman, c'est 20-21, Vanessa 21. Et puis quant à moi, je vous retrouve demain avec autant de plaisir, évidemment, un peu comme vous. Nous, on ne lâche rien. Ciao, ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.